Vous suivez l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Roux.
Bonsoir. Lutte contre la corruption, les détournements et la mauvaise gestion des deniers publics en RDC, le ministre du Développement Rural, le PCA et l'ADG de la SOMA, le procureur de la République Omar Kivu, ainsi que certains hauts fonctionnaires de l'administration publique mis à la disposition de la justice dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Tolérance Zéro. Comment analyser cette démarche annoncée par le ministre de la Justice? Trois invités participent à cette émission. Jean-Lucien Bossa, député national de l'opposition, vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale et secrétaire général adjoint du MLC chargé de l'idéologie et programme. Honorable Bossa, bonsoir.
Bonsoir.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment Laurent Simon Ikengue, ministre honoraire de la fonction publique et de l'urbanisme et habitat et vice-président du mouvement social pour le renouveau MSR, membre de la majorité présidentielle. Professeur Joseph Yap Kachoum, professeur de droit à l'université de Kinshasa de Lubumbashi et président du Contrôle Citoyen, une ONG qui a comme mission d'instaurer la culture de rendre compte. Professeur Joseph Yap, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vos réactions nous sont déjà parvenues. Alain de Kinshasa, on peut saluer les efforts du gouvernement et de la justice congolaise. Mais le problème est davantage structurel et on peut croire que des actions sporadiques d'éclat ne peuvent pas à elles seules suffire à résoudre le problème de la corruption. Je me demande même si les membres des partis qui pèsent électoralement lourd peuvent être touchés en cette période électorale. Pascal Mwamba de Cap Town en Afrique du Sud, lancer la deuxième phase de l'opération Tolérance Zéro, c'est bien, mais est-ce que le ministre de la Justice saura aller jusqu'au bout de sa logique, car juste aujourd'hui, nous attendons par exemple la suite des enquêtes initiées auprès des gestionnaires de fonds destinés à l'organisation du cinquantenaire. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocati.net.
Le ministre du Développement Rural, limogé du gouvernement central et certains responsables de l'administration publique sont mis à la disposition de la justice. Ils sont pour les uns reprochés de mauvaise gestion et détournement des deniers publics et pour les autres de corruption. C'est le ministre de la Justice qui l'a annoncé samedi dernier au cours d'une conférence de presse. Pour le Zolobambi, cette action inaugure la deuxième phase de la tolérance zéro, essentiellement consacrée au col blanc. On écoute le ministre de la Justice, Lou Zolobambi, au micro d'Imonsan Olire.
Le président de la République avait promis de donner une nouvelle impulsion à l'opération Tolérance Zéro, bref, à la lutte contre l'impunité, la corruption et le détournement de deniers publics. La dite opération devait essentiellement être orientée vers les criminels à col blanc. La preuve vient d'être donnée avec la série d'arrestations et d'interpellations allant des membres du gouvernement jusqu'à ceux de l'administration publique en passant par tous les services parastataux. En effet, sur l'instruction du président de la République, la justice congolaise vient de déclencher un vaste coup de filet concernant la phase 2 de l'opération Tolérance Zéro. Personne ne sera épargné. Toutes les autorités du pays, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs, les officiers généraux et supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise, les responsables des entreprises du portefeuille de l'État ou assimilés, tous les hauts responsables de l'administration publique, à quelque niveau que ce soit, sont désormais informés que la justice est sur leur pouce.
Notez que d'après le ministre de la Justice, à part le ministre du Développement Rural Limogé, il y a un haut responsable de ce Congo, un ministre provincial de l'Équateur, le président du conseil d'administration et l'ADG de la SONAL, la Société Nationale de Loterie, le procureur de la République de Nord Kivu, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi et plusieurs hauts fonctionnaires du ministère national des Finances. Selon le procureur général de la République, l'ancien ministre du Développement Rural Philippe Kondi est placé en garde à vue avant d'être transféré devant un magistrat qui devra le juger. Sa détention intervient quelques heures après avoir été entendu par les inspecteurs judiciaires pour malversation financière. Réagissant à cette annonce du ministre de la Justice, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption Tout en saluant l'arrestation du ministre du Développement Rural, la LICOCO estime que cette vague d'arrestations annoncée par le ministre de la Justice devrait toucher tout le monde sans exception. On écoute Ernest Pararo, président de la LICOCO, au téléphone de Martin Seboujangoui.
Au niveau de la LICOCO, d'abord, nous avions salué cette arrestation du ministre du Développement Rural. Vous vous souvenez qu'à la veille de cette nouvelle-là, ce monsieur-là avait donné un poulet pour 4 travailleurs des agents du Développement Rural. Et le reste d'argent, c'était partagé avec certains agents du Développement Rural. Ça, c'est une très bonne chose. Mais nous pensons qu'il y a pas mal de ministres qui trempent dans le détournement des données publiques et qui ne sont pas arrêtés. Donc, nous disons que cette liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a certains pas ADG aussi. C'est ce qui fait que nous, au niveau de la LICOCO, nous pensons que cette vague d'arrestation devrait commencer par le premier ministre pour montrer à la population congolaise qu'effectivement, personne n'est intouchable là où il est lorsqu'il s'agit de la corruption et de détournement des données publiques.
Laurent Simon Ikenge, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ministre honoraire de la fonction publique, de l'urbanisme et habitat et vice-président du mouvement social pour le renouveau MSR, membre de la majorité présidentielle. Comment vous avez accueilli la deuxième phase de l'opération Tolérance Zéro?
Nous avons accueilli avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, parce que enfin tout le monde, l'opinion publique nationale comme internationale, attendait que les colonnes en cravate soient inquiétées. Et pour ceux qui ne croient pas, ils ont vu que ce que le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, avait annoncé que les portes de prison seraient ouvertes, ont cru, ils ont vu comme Thomas, et nous pensons que ceux qui doutaient encore attendent leur tour. Voilà.
Alors, puisque vous parlez de l'impulsion du chef de l'État, de la première opération Tolérance Zéro, prenons cette question qui nous vient de Bandundouville pour vous.
Malonga Koubali de Bandundouville. C'est vraiment encourageant de voir un pays en reconstruction comme le nôtre procéder à des arrestations de grands dirigeants pas complexes. Mais quel est le bilan de la première étape de Tolérance Zéro dans toute l'étendue de la République?
Alors, quel bilan vous vous dressez de la première opération Tolérance Zéro?
Je salue d'abord la question de cet intervenant, comme moi, qui partage le même sentiment de satisfaction. Mais quand il me demande les bilans, je crois qu'il y a le service pénitentiaire qui va faire les bilans. Nous savons seulement qu'ici, à Kinshasa, on a vu, et comme ailleurs, l'arrestation de plusieurs Kouluna. Mais malheureusement,
les jeunes délinquants, hein,
tous les délinquants des enfants de la rue, en d'autres termes, tous les voleurs des droits chemin. Mais nous avons vu que beaucoup de gens ont commencé à s'apprendre au ministre. Non, ceux-là sont de petits voleurs, il faut commencer par les grands. Et maintenant, le tour des grands arrive. Et je crois que je suis très satisfait de constater que toute l'opinion nationale est accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour finalement atteindre le MERS.
Alors, nous avons suivi tout à l'heure le ministre Luzolo Bambi qui dit que c'est le chef de l'État qui a donné l'impulsion, mais si c'est le chef de l'État qui doit à chaque fois donner l'impulsion, à quoi finalement sert l'indépendance de la justice dans ce pays?
C'est moi qui ai décidé la question.
Bien sûr.
Ok. Dans tout État, il y a toujours une impulsion. Quelqu'un qui impulse, quelqu'un qui oriente et quelqu'un qui donne le modèle. De prime abord, je voudrais vous rappeler que la corruption en République démocratique du Congo, c'est un fléau qui date d'il y a plus de 30 ans. C'est vers les années 70, avec les mesures de désaïrianisation, tout est parti de là. Et d'ailleurs, pour rappel, les groupes d'animation n'avaient-ils pas chanté du Kamboya Bomimboka, du Kamboya Tribalisme, du Kamboya Corruption, de Koya, la Bureau Centrale de Koya? Donc, c'est plus de 30 ans que le mal gangrène la République démocratique du Congo.
Est-ce une justification?
Non, ce n'est pas. Je présente la genèse. Toutes les couches, toutes les institutions, publiques, privées, sont gangrénés par la corruption, par le détournement, par le mensonge institué, d'ailleurs, en institution, excusez-moi la tautologie. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui constate que si rien n'est fait, tous les efforts de reconstruction risquent d'être bloqués. Et il commence. Et il commence au bon moment. Parce que le ministre de la Justice a commencé avec le délinquant, si vous voulez, que les gens appellent petit. Et maintenant, on en est au délinquant, comment vous voulez, grand, au grand délinquant.
En cravate, comme dit le ministre.
Oui. Alors, quant à l'indépendance de la justice, il faut poser la question au président de la Cour suprême de justice, il faut poser la question au procureur général de la République. En tout cas, moi, j'ai été membre du gouvernement et aujourd'hui, je suis un acteur politique, donc un opérateur politique, parce que je suis vice-président d'un parti politique, le Mouvement social pour le renouveau MCR. Je pense que je ne suis pas qualifié pour répondre à l'indépendance de la justice, mais ce que nous savons, c'est que la justice fait son travail, même en ce qui concerne le ministre du développement rural. Il n'est pas encore mis aux arrêts. Donc, le parquet est en train de connaître les dossiers.
Alors, avant de donner la parole à l'honorable Boussa, vous avez dit que cette démarche intervient au bon moment, je présume à la veille des élections, hein, parce que c'est le moment où nous sommes. Mais il y a beaucoup d'auditeurs, c'est le cas de Melki Musical et de Bounou en province orientale, César Kenzo de Béni au Nord Kivu, Jérémy Kiambou de Kanyabayonga au Nord Kivu, Guillaume Le Braquebert de Mahagi en province orientale, et Kasserik Avitekere de Goma en Nord Kivu, qui pense que c'est pour simplement des besoins électoralistes.
Non, on ne voit pas toujours voir les choses du mauvais côté. Moi, je pense que à quel moment on peut appréhender un voleur? Vous avez parlé de la distribution ici à la fin de l'année, disons au début de l'année à la Bonana, de vivres aux agents et fonctionnaires. Comment peut-on donner un poulet à distribuer à quatre personnes?
Peut-être que c'est ça la politique du gouvernement.
Non. Moi, j'ai été ministre de la fonction publique. J'avais donné un sac de 25 kilos et un carton de poulet à chaque agent de la fonction publique au 31 décembre 2007. C'est le même gouvernement.
Voilà. Honorable Jean-Lucien Boussa, comment vous accueillez la tolérance 02?
D'abord, il y a un problème de distinction entre la tolérance 01 et la tolérance 02. Ça pose véritablement un problème.
Pourquoi?
Dans un état de droit, et qui devrait avoir comme obligation de renforcer l'état de droit, de renforcer la gouvernance économique et d'assurer la transparence de la gestion de la chose publique dans l'intérêt du peuple congolais. Ça devrait être une activité quotidienne du gouvernement de la République. Ça devait être une activité quotidienne et régulière de toutes les institutions de la République. Ça ne doit pas être une activité ou une action événementielle. Je crois que c'est tout le problème. Et puis ça ne doit pas, malheureusement, apparaître comme des actions propagandistes. On ne peut pas faire de la propagande tous les jours. La gestion de l'État, le fonctionnement des institutions, le principe de séparation du pouvoir, le renforcement de l'état des droits, je reviens là-dessus, c'est un exercice permanent de tout gouvernement et de toutes les institutions. Ça, c'est de un. De deux, c'est vrai, l'un des défis que nous avons dans ce pays, c'est véritablement de lutter contre la corruption. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait que moi qui parle, honorable Jean-Lucien Boussa, je fais d'émotion et d'émotion, justement, pour dénoncer la corruption, pour dénoncer le détournement des deniers publics, pour dénoncer l'enrichissement illicite des acteurs politiques, institutionnels. J'ai indiqué à certaines occasions que le grand problème de ce pays, c'est que la logique du pouvoir, la pratique du pouvoir, a consacré l'affairisme des acteurs politiques. De sorte que, mieux au système, ces acteurs se protègent entre eux. Bon, une décision vient d'être prise. Mais le vrai problème et le vrai débat, le système qui est mis en place, qui est celui de la prédation, qui est celui de l'enrichissement illicite, qui est celui de la corruption, organisé par les acteurs institutionnels, ils sont à la fois corrupteurs et corrompus, d'une part. D'autre part, les mêmes acteurs institutionnels, ils sont en plein dedans dans les contrats léonais. Et ce sont eux-mêmes les acteurs, n'est-ce pas, des détournements des publics. Je crois qu'ici, la question étant systémique, il faut sanctionner les acteurs du système. Et je ne pense pas que c'est une décision isolée où on a puni un ministre ou deux, où on a révoqué, qui va résoudre le problème. Rappelez-vous de la motion de censure que nous avons introduite au niveau de l'Assemblée nationale contre le gouvernement de la République. Quelles ont été les raisons? Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La majorité a protégé son gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des rapports au niveau de la commission Copin. Rappelez-vous, avant l'appel de la session passée, la commission économique et financière a présenté à la PNR, qui a adopté à l'unanimité, un rapport où les dénominateurs communs se trouvent être la corruption, le détournement de nos pays. Ces acteurs se trouvent au niveau du gouvernement et dans toutes les institutions de la République.
Mais ne faut-il pas commencer quelque part, comme l'a fait le ministre?
Pourquoi on n'a pas commencé ça il y a 2-3 ans? Pourquoi? Alors que les fautes étaient établies. Alors que les acteurs étaient connus. Qu'est-ce qui a fait que, lorsque l'Assemblée nationale dénonce, avec preuve à l'appui, lorsqu'au travers de sa commission économique et financière, on identifie les détournés des lieux publics.
Pouvez-vous rappeler certains cas à l'intention des auditeurs et internautes qui nous...
Je pense que tous les acteurs politiques et de la société civile ont lu les rapports de la commission économique et financière. Il a été dit ceci par exemple. Que des ministres des budgets successifs, que des ministres des finances, que des ministres de l'agriculture ont été identifiés comme des acteurs de la mauvaise exécution du budget. N'est-ce pas? Aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on nous dise, messieurs les parlementaires, vous avez eu raison, nous allons commencer à frapper tout ce monde-là, parce que des rapports existent, parce que des données existent, qu'est-ce qu'on attend? Donc, l'approche systémique devait nous guider dans la recherche de solutions à ces problèmes. Il faut une thérapeutique de choc. Il faut éviter les thérapeutiques événementielles. La justice doit s'impliquer pleinement. Vous avez des rapports de... Vous avez une résolution du Sénat sur les détournements des données publiques dans les provinces. Et ces dossiers se trouvent au niveau de la Cour suprême de justice. Qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'on en fera? Les poissons pourris par la tête. La question étant systémique, il faut des réponses systémiques.
Alors, il faut commencer par qui à ce moment-là?
Non, mais il est clair. Il est clair que lorsque, au niveau du gouvernement, on s'est rendu compte qu'on a des ministres affairistes, corrupteurs et corrompus, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons exigé la démission du gouvernement. La majorité a protégé son gouvernement, n'est-ce pas? Il faut une nouvelle impulsion. Et la nouvelle impulsion, ce n'est pas le fait de frapper, même si je salue, n'est-ce pas? C'est début de réponse. Mais l'impulsion à donner devait être la sanction politique d'abord, les sanctions judiciaires ensuite, et puis qu'on évite de nous rabattre les oreilles avec de la propagande. Que chacun là où il est, dans toutes les institutions, fasse son travail.
Professeur Joseph Yav Katoun, quelle est votre analyse à ce niveau?
Merci beaucoup en tout cas pour cette occasion. J'ai suivi les deux intervenants et je partage mon avis. C'est-à-dire que sur le plan de principe, je suis tout à fait d'accord, n'est-ce pas, par le fait que on doit commencer quelque part, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est venu en retard, mais il faut saluer quand même qu'on a commencé quelque part. Mais ayant dit cela, je me dis quand même qu'il ne faudrait pas. Entre nous, nous sommes dans un état de droit, ou qui se veut de droit. Il y a des règles simples en rapport avec la séparation des pouvoirs d'abord, mais aussi la collaboration. Il ne faudrait pas, pour que la justice fasse son travail, qu'un chef d'État, qu'un ministre, puisse dire non, poursuivez tel ou tel monsieur. Déjà, c'est un quoi. En principe, il appartient. C'est un devoir de la justice. Et surtout dans un état qui fait démocratique et un état de droit, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de colonne à col blanc ou de colonne où les petits colonnes et consorts qui va
à leur occupation, à la malveillance. Donc je me dis, pour ne pas répéter ce que les autres ont dit, que c'est une bonne chose que le gouvernement ou le chef de l'État avec son ministre, la justice, ils sont réveillés pour dire que maintenant nous attaquons Kuluna en cravate. Mais je me dis, mais en définitive, qu'est-ce que la tolérance zéro? C'est cette culture-là, c'est cette lutte contre l'impunité. En principe, ça doit être, cette lutte doit être permanente. On ne doit pas attendre des moments. On a annoncé depuis 2006 que finissait la récréation, mais on constate avec la conférence tenue par le ministre, que malgré qu'on avait annoncé que finissait la récréation, eh bien, c'est actuellement, c'est avec les interpellations de ces soi-disant haut placés entre nous. Nous devons aussi être, moi je suis de la société civile, nous devons aussi être sérieux avec nous-mêmes. Est-ce que tous ces gens-là qui ont été, n'est-ce pas, les personnes qui ont été interpellées, faut-il encore qu'on nous prouve que ces personnes sont haut placées par rapport à ceux-là, est-ce qu'au-dessus de ces personnes, on ne peut pas en trouver qui sont réellement des grands Kuluna ou des Kuluna, des vrais Kuluna en cravate. Donc moi je me dis qu'il faudrait, nuancer là-dessus. Je me dis que c'est une bonne chose, nous saluons cela. C'est venu tard, mais ça ne devait pas attendre qu'un chef d'État, ça ne devait pas attendre qu'un ministre puisse proclamer cela. C'est le travail quotidien en principe de la justice, et moi en tant qu'acteur de la justice, un objet de la justice, c'est quand même une honte que l'impulsion puisse venir d'ailleurs. C'est vrai que on a constaté, peut-être qu'ils ont constaté qu'il y avait une léthargie, et donc ils sont la balle au bon. Pour le reste, là, moi je me dis quand même que j'ai mis des réserves. Il y a la présomption d'innocence qui doit être sauvegardée, n'est-ce pas? Quand même on cite X personnes, Y personnes ayant présumé avoir commis telle ou telle infraction, ou telle avoir corrompu, ou avoir été corrompu, avoir détourné un consort, je me dis qu'il faudrait qu'on mette les gants, c'est une bonne chose de dire cela, mais il faudrait que la justice fasse son travail. Maintenant, je me dis, est-ce que cette justice-là, qui au départ devait en principe poursuivre ou mener une investigation, n'a rien fait, a attendu que le chef de l'État, a attendu que le ministre puisse passer à la deuxième phase, sans pour autant, et nous sommes conscients que la première phase n'a accouché, je ne voudrais pas dire une souris, mais n'a rien donné. Mais je me dis, bon, en définitive, on doit commencer par quelque part, donc faisons en sorte que nous ayons cela en nous, afin que l'impunité qui a trop régné en RDC puisse un peu s'estomper. Voilà un peu ma contribution à cette espèce.
Professeur Joseph Kiav, il y a Augustin de Kinshasa, cet internaute qui dit « Le Congolais formidable, il est capable d'aimer une chose et son contraire en même temps, de sanctionner les autres en épargnant ceux de sa famille politique. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de notre justice, contrairement aux actions de tolérance zéro prônées par le ministre Luzolo Bambi ?» Quelle est votre réaction?
Oui, je partage cela. Je me dis qu'en principe, dans un état de droit où il y a la séparation de pouvoir, et que la justice doit faire son travail normalement, sans qu'il y ait impulsion, sans qu'il y ait interférence et consort. Mais qu'est-ce que nous constatons? La crainte ou les réserves que moi j'ai mis par rapport à cette tolérance zéro deuxième phase, c'est que, d'abord, comme l'a dit l'honorable, c'est venu vraiment dans un temps un peu suspect. Et puis, il faudrait qu'on fasse un effort pour ne pas arriver au règlement des comptes. Ça, il faudrait qu'on l'évite. Donc, je me dis, c'est une bonne chose. C'est vrai, comme nous disons avec tout le monde, c'est une bonne chose. Mais je partage l'avis de l'auditeur là. Je me dis qu'il y a ceux-là qui seront protégés. Du reste, on l'a vu. On a suivi depuis 2006 des parlementaires qui ont trempé. Il y a eu des actions qui ont été menées. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les suites de ces actions-là? Et donc, je me dis, on encourage, mais nous sommes à la fois aussi sceptiques. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que cela ne stagne pas? C'est ça la question.
Merci, professeur. Nous y répondrons tout de suite dans les minutes qui suivent. Laurent Simon Ikenge, vous-même, vous avez été ministre. N'êtes-vous pas concerné par cette opération?
C'est un problème de la société.
tout le monde est concerné par ce que nous disons ici, ce dont on parle. Mais malheureusement, je voudrais rappeler qu'on ne doit pas réduire le problème de la corruption seulement au moment de ce gouvernement. Donc la responsabilité, la corruption, remettre au niveau de ce gouvernement ici, on se trompe de date, c'est qu'on ne connaît pas le problème. J'étais en train de rappeler ici les mesures de réalisation. En 1991, le pays s'était arrêté au moment de la conférence nationale souveraine pour faire la réélection. Et je crois que quand vous lisez les résolutions de deux commissions malheureusement qui n'étaient pas adoptées, à savoir la commission de bien mal acquis, la commission des assassinats, vous allez voir qu'il s'est posé un certain nombre de crimes économiques, politiques dans ces pays. Et quand on parle que les mesures interviennent un peu tardivement, non, il faut séparer les choses. En ce qui concerne le chef de l'État, depuis qu'il a été élu, le ministre du Développement rural n'est pas le tout premier à être révoqué. Il y a déjà eu avant lui deux ministres révoqués. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque un haut cadre, un membre du gouvernement, autour de lui, pèse quelques soupçons d'indignité, je crois que la petite chose à faire, c'est de demander au ministre de démissionner. Et cela se passe dans tous les horizons.
Oui. Pourquoi l'Assemblée nationale a demandé?
J'en arriverai. En 2007, il y a deux ministres qui ont été révoqués par le chef de l'État. Il y a le ministre de recherche scientifique et le ministre de transport à l'occasion du crash de Kinshasa.
Mais quel était le propos politique de la République ministre dans ce
a pris justement des mesures administratives pour mettre à l'écart le deux ministres. Aujourd'hui, c'est le troisième cas que je connais. Et cela n'est pas tout.
En cinq ans.
Toutes les réformes, toutes les décisions qu'on a connues dans la réforme de la magistrature, les magistrats révoqués, les magistrats mis à la retraite, ainsi de suite. Et même à la fonction publique, dans l'administration publique en 2009, au mois d'août, le 1er août. Toutes ces mesures disaient quoi? Donc, tout, comme quelqu'un a dit, qui doute que s'ils ne sont pas des hauts cadres, je me demande si un ministre révoqué n'est pas un haut cadre, alors on trouverait un haut cadre où? Donc, à ce moment, ça ne va pas. Des deux, je reviens à ce qui avait été dit ici. Même pendant la transition, nous avons connu un vice-président du parti de mon collègue ici, et ce vice-président était chargé du secteur économique et financier.
Jean-Pierre Bembaba, oui.
Est-ce qu'on peut nous rappeler quelques mesures courageuses qu'il a léguées à la République aujourd'hui? Moi, je pense qu'au lieu de jeter pour des faits propagandistes de flèches à la majorité, la corruption n'est pas un problème de l'AMPE. La corruption, au contraire, c'est l'AMPE qui combat la corruption à travers les actions qui viennent de se passer. Et vous avez évoqué vous-même la collaboration et la séparation des pouvoirs. Les mesures administratives ont déjà été prises et dans ce compte-là, je crois qu'il y a lieu de féliciter le gouvernement de Kabila, mais il y a aussi des mesures judiciaires et pour ça, c'est la collaboration entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. L'exécutif ayant fait sa part, le judiciaire doit continuer.
Voilà, prenons cette réaction qui nous vient de Bénin-Nord Kivu pour vous, Laurent Simon Ikingé.
Jonathan et tout, de Bénin. Tout son parti, ceux qui font détourner la somme d'argent de la SNEL, versée par la régie des eaux du Congo Brazza. Tout son parti, ceux qui ont été cités dans les rapports de Tundula. Tout son parti, ceux qui ont été cités dans les rapports de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Dans tout ça, nous savons que le ministre de la Justice veut laver ses mains pour dire à la fin qu'il a tout fait, mais c'est la justice qui n'a rien fait.
Brève réaction, Laurent Simon Ikingé, où sont passées toutes ces personnes qui ont été citées dans ces dossiers sales?
Je pense que nous sommes en train de construire un état des droits. Et tout le monde, mon collègue ici, et même dans les deux autres intervenants de l'émission, ont dit qu'il ne suffit pas de dénoncer pour
que la personne se voit déjà déférée. Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a la présomption d'innocence et il y a la défense. Il faut donner l'occasion à la justice. Si on a détourné l'argent de la SNED doit se plaindre et le parquet doit faire son travail. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un qui a dit qu'on protège, hein, donc on arrête les gens, on protège merci. Ceux de sa famille. Mais les membres du gouvernement ne sont pas de l'opposition, ils sont de notre famille.
Merci.
On les révoque.
Merci.
On ne protège personne.
Je vous ai demandé une brève réaction. Honorable Jean-Lucien Boussa, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Simon Itingué?
Quel sujet?
Mais au sujet de la tolérance zéro, il pense que le moment s'y prête, il pense
non.
Pendant que vous étiez aux affaires également,
non,
vous
n'avez pas fait. Je voudrais lui dire, je voudrais rappeler à l'opinion qui le suit, que nous ne sommes pas ici en train de brosser le bilan de la Deuxième République, ni celle de la transition où le président de la République, Joseph Kabila, était le chef de l'exécutif. Donc nous sommes en train de parler de la corruption, des détournements de données publiques. N'est-ce pas? Il y a la mauvaise gestion.
Mais vous, au pouvoir, vous n'avez pas fait mieux.
Je suis désolé. Je crois qu'on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Parce que l'occasion sera donnée pour ceux qui ont géré à l'époque avec Kabila de pouvoir s'expliquer devant la nation. Parce que Kabila était président. Jean-Pierre Bemba Roudérez était vice-président. Je crois qu'ils sont encore vivants. Ils vont s'expliquer un jour. Aujourd'hui, le débat est celui de savoir quel est le problème. Le problème, c'est que le pays est gangrené par la corruption. Qui sont les acteurs principaux? Et c'est là où c'est dangereux. C'est des acteurs institutionnels. Ils sont à la fois corrupteurs, ils sont corrompus. Et c'est là le vrai problème. Alors, c'est la cause de la corruption, les institutionnels. Le problème aujourd'hui est de savoir comment faire pour que les institutionnels, les acteurs institutionnels, ne soient pas des acteurs de la corruption, de détournement des deniers publics. C'est là le vrai débat. Et là-dessus, le Parlement a une longueur d'avance sur le président de la République et sur le gouvernement. Nous avons, de manière systématique, posé des problèmes. Nous avons, en tant qu'opposition, exigé des sanctions. C'est la majorité qui a protégé ses membres du gouvernement. Et je crois que l'opinion nationale et internationale est témoin et les faits les démontrent. Je pense que si on veut aller plus loin, je voudrais que le président de la République, le gouvernement, et tout, demande à tous les ministres, à tous les membres de l'exécutif. Vous savez, lorsqu'on est nommé ministre, on fait une déclaration de patrimoine. Je ne sais pas quels sont les ministres qui ont quitté le gouvernement, qui ont fait leur déclaration de patrimoine à l'entrée et à la sortie. J'espère que mon collègue a fait sa déclaration de patrimoine à la sortie. Il faut commencer aussi par là, pour donner l'exemple. Pour donner l'exemple, il faut aussi analyser comment les acteurs institutionnels qui viennent en fonction. Une voiture, une maison, les salaires sont bien connus, les avantages légaux sont très bien connus. À la sortie, c'est des hommes d'affaires, c'est des millionnaires.
Le MLC au pouvoir, donc, vous l'avez fait?
Non, mais je suis désolé. Je suis désolé de dire qu'aujourd'hui, et s'il y a des gens du MLC qui ont géré à l'époque, qui se trouvaient impliqués, le principe de continuité de l'État voudrait qu'ils soient traduits en justice. Aussi. Donc je voudrais simplement dire aujourd'hui que notre constitution, celle de 2005, dispose que lorsqu'on entre en fonction, on fait la déclaration de patrimoine. Et je pense aujourd'hui que le combat contre les détournements des deniers publics, contre la corruption, devait commencer par les hauts. Qu'est-ce qui explique qu'aux États-Unis, en France, partout ailleurs, on connaît le patrimoine du président de la République, on connaît le patrimoine, les salaires de tout le monde. Ici, il y a des fonctions dont on les connaît qui gagnent quoi? Et on ne peut pas comprendre que tout un système soit réduit à l'affairisme. C'est là le vrai débat.
Alors, donc, à part la déclaration de patrimoine, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour lutter contre ce fléau?
Première chose, lorsqu'il est constaté dans le chef d'un acteur institutionnel qu'il est en train de faire de l'affairisme alors qu'il est membre du gouvernement ou membre d'une institution publique, la justice devait regarder ça de très près. Deuxièmement, le principe de séparation de pouvoir voudrait que lorsque le Parlement a contrôlé et que des rapports établissent, n'est-ce pas, que tel acteur est suspect ou est soupçonné d'avoir détourné les deniers publics, le minimum, c'est de pouvoir rendre les tabliers. Mais ici, nous sommes dans les cas où, même lorsque les preuves sont là, lorsque les parlements l'exigent, mais on peut la soudrer, il faut attendre le président de la République pour pouvoir agir. Mais c'est la dérive totalitaire.
Merci, honorable. Professeur Joseph Yard, il y a deux auditeurs, Éloi de Gamblou à Liège en Belgique, qui dit la lutte contre la corruption au Congo, c'est bon d'en parler, mais c'est de la théorie. Comme c'est tout un système, il fallait d'abord procéder par un audit externe en amenant des experts neutres de tous coins. Comme ça, on passe ministère par ministère jusqu'au directeur des entreprises et les restes des gestionnaires au bas niveau. Sans cette procédure, c'est la mascarade et seulement les plus malheureux ou les gens qui ne répondent pas aux ordres des géants seront la cible, comme le cas maintenant. Simba Pambou de Matadioba Congo, c'est une démarche vaine car plusieurs hauts fonctionnaires de ce pays vivent de la corruption. Donc, s'il faut traduire en justice, tous devraient l'être. Que le ministre de la Justice nous montre au moins 10 hauts fonctionnaires déjà arrêtés. Médard Bouna de Tchouvi de Kisangani en province orientale, la corruption ne peut être éradiquée sans s'en prendre aux racines du mal. Les actes qui traitent les symptômes du mal n'auront que des effets éphémères, car les causes profondes du mal congolais resteront intactes. Professeur, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces fléaux? L'honorable Boussa parlait, par exemple, déjà de la déclaration de patrimoine.
Merci. Les interventions de nos amis sont vraies. Et je voudrais d'abord commencer par ajouter à ce que l'honorable a parlé, a dit. Je me dis que c'est vrai, on doit faire la déclaration de patrimoine et au début et à la fin, mais il y a des mécanismes très simples de droit pour faire en sorte qu'on échappe à cette déclaration sérieuse de ce patrimoine. Juste un exemple, c'est-à-dire que moi je peux avoir des biens, j'entre en fonction, je suis ministre et consort, je dis j'ai deux maisons, ainsi de suite. Et donc, quand je suis ministre, j'amasse des biens, et ces biens ne seront pas sous mon nom, ou ne seront pas à mon nom. Et donc, à la fin, donc, quand je sors, je déclare que j'ai gardé mes deux maisons. Et donc, mais pas tout ce que j'ai eu pendant mon mandat, pendant que je me suis rempli les poches, eh bien, c'est au nom des autres personnes. Et donc, ça, c'est une des mesures, mais il faudrait qu'on mette des garde-fous, n'est-ce pas, aussi, pour voir dans quelle mesure de cas de fou, pourquoi dans quelle mesure n'est pas fait, qu'on est nul ou pas ce fait-là, mais c'est important. Le deuxième fait, c'est par rapport, ils ont eu à dire cela, c'est systémique, c'est un système. La corruption, avec tous les corollaires, c'est un système. C'est-à-dire qu'on ne veut pas toucher un seul maillon. Il y a tous les autres maillons sont déjà, sont rouillés. Eh bien, il faudrait qu'on mette des moyens et entre autres, en passant, en tant qu'enseignant, on dit non, vous êtes aussi corrompu. Quand nous suivons les trois amis qui ont fait l'intervention avant moi ici, ils disent non, mais les fonctionnaires ne sont pas payés. Et donc, bien, on trouve des justificatifs ou des justifications, n'est-ce pas, à cet état malsain des choses. Je me dis non, mais on doit s'arrêter, on doit faire, n'est-ce pas, comment dirais-je, un bilan pour faire en sorte qu'on puisse réellement donner à la justice pour sortir de cette affaire ici, pour qu'il n'y ait plus corruption. C'est la justice qui doit se battre, c'est la justice qui doit être, comment dirais-je, on doit donner des petits à la justice pour que cette justice fasse en sorte que nous puissions avoir peur, n'est-ce pas, que nous puissions craindre, n'est-ce pas, et nous devons avoir, comment dirais-je, cette culture de rendre compte. On ne rend pas compte. Quand on entre, on gère comme on veut, quand on sort, c'est comme on veut, et donc il y a ce manque de prendre compte. Et ça, c'est en sorte que nous puissions avoir, comme le contrôle citoyen le veut, cette culture de rendre compte. Et donc, je me dis que c'est d'une façon ramassée, puisque le mal est profond, mais il faudrait commencer quelque part. Nous sommes d'accord qu'on a commencé quelque part, mais je me dis qu'avec des mesures sporadiques, ou des suspensions, ou des mesures sporadiques, ça ne pourra pas porter grand fruit.
Merci, professeur. Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous.
Emery Okundin Diogo, député national élu de l'Ubefo. Nous nous disons que la manière d'agir est très sélective. On saute vite sur le ministre État, mais les véritables détourneurs des données publiques sont protégés. Je souhaiterais que le ministre puisse appliquer la loi dans toute sa rigueur pour que tolérance zéro soit réellement une réalité.
Professeur, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur également.
Oui, c'est cela, c'est ce que nous disons des fois. C'est-à-dire que je partage cela. Il y a des failles dans mon livre sur intitulé La justice congolaise est accusée. Je relève cela. C'est-à-dire qu'il faudrait que la justice fasse son travail. Et quand on parle de la justice, il y a la loi aussi. Et donc il faudrait qu'on applique, n'est-ce pas, dans les normes et éviter, je répète, nous devons éviter de règlement des comptes, nous devons éviter des calculs politiciens, n'est-ce pas, dans ces poursuites-là.
Laurent Simon Ikenge, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Nous abordons la partie qui concerne déjà les conclusions. Il faut déclarer ses biens, il faut attaquer le système en donnant des moyens à la justice, il faut instaurer la culture de rendre compte. Quel sens donnez-vous à cette démarche amorcée par le ministre de la Justice?
Je donne toute ma confiance au ministre. Parce que dans toute société démocratique, tout état des droits, il faut avoir l'obligation de rendre compte lorsqu'on est dirigeant, même quand on est député. Vous savez que dans les avantages des députés, il y a une partie qu'on appelle les invisibles. Comment, à côté du salaire, on peut aussi avoir des invisibles? Donc, tout ce que je refuse...
Mon nom, notre main, identité.
Tout à fait. Tout ce que je refuse, c'est de dire la corruption égale responsabilité de la majorité au pouvoir aujourd'hui. Ça, ce n'est pas une bonne vision, ce n'est pas juste. La corruption vient de loin, et comme on a commencé, ma peur, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement à ces cas dont on parle. Que ça continue comme on a souhaité ici, que ça soit une affaire de gestion quotidienne. Voilà.
Merci, honorable Lucien Boussa. Votre conclusion déjà.
Ma conclusion est claire, la question est systémique. Elle doit être résolue de manière systématique. J'entends par là que tant qu'on ne sort pas de la logique du pouvoir qui s'organise autour des privilèges, tant qu'on ne sort pas du système de prédation et on ne quitte pas la logique de l'affairisme des acteurs politiques, tant qu'on ne repensera pas l'état du droit avec son corollaire, le principe de séparation de pouvoir, tant qu'on ne garantira pas la bonne gouvernance et qu'on ne sanctionnera pas des gens, on paiera rien du tout. Et tout ce qui est pris comme mesure ponctuelle et vénémentielle, c'est de la propagande. Et dans 6 mois, vous allez voir les résultats.
Professeur Joseph Yave, votre conclusion.
Merci. Je partage les conclusions données par mon prédécesseur. Je voudrais juste faire application, n'est-ce pas, à ce que nous vivons ailleurs, depuis la Afrique du Sud, maintenant. Ici, ils appliquent ce qu'ils appellent le vetting. C'est-à-dire qu'on assaini les politiciens, on assaini les personnes qui sont trempées dans pareille chose, ou dans pareille malversation et corruption. Et donc, je me dis, comme nous allons d'élection, nous, en tant qu'électeurs, nous appartient de voter utile et de voter pour les personnes qui ne sont pas trempées entre guillemets. Merci.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Kevin Coupé, Guy Mat et Samuel Kachak qui m'ont aidé à préparer cette émission, sous la supervision de Pierre Kipela Mondou, Bob Landou, Guy Mandangou était à la technique, coordination et présentation Alain Roumouché. Vous nous avez suivis, nous vous disons merci. I'm going to go to the next one.